Rome, Philippe Solaire, c'est une ville qui vous est proche, qui circule d'ailleurs dans tous vos livres, comme Venise, et on peut dire que l'Italie est toujours présente en vous.
Pourquoi est-ce qu'on dit que tous les chemins mènent à Rome ? C'est une formule étrange. Bien sûr, on pense à la catholicité, au fait que ce soit vraiment la ville éternelle, on dit aussi. Mais c'est très étrange, cette espèce de montée vers Rome. Il y a d'autres villes sacrées, comme on dit. Enfin bon, on peut aller à Jérusalem, on peut aller Venise à son côté sacré aussi, Florence aussi, bien sûr. Bon, j'en reviens, j'étais à la Villa Médicis pour faire une conférence. C'est parler d'art, on intitule ça. Et j'avais intitulé ma conférence « Histoire de pape » au pluriel. Que voulais-je dire ? Ramasser dans une histoire extrêmement choc avec des images et de la musique. Quelques épisodes de ces papes qui, quand même, depuis 2000 ans, occupent les fantasmes de la planète. Alors, j'ai pris les papes, pourquoi ? Parce que je voulais tout de suite faire voir ce tableau extraordinaire de Velázquez, qui est venu à Rome pour peindre Innocent X. Qui est ce pape ? Que lui est-il arrivé ? Comment est-il mort ? Dans le dénuement le plus complet, la misère noire, parce que sa belle-sœur, avec qui il avait une liaison scandaleuse, lui volait absolument tout. Splendeur et misère. Et donc ce tableau a fasciné Francis Bacon, comme vous savez, puisqu'il en a fait une question de duel personnel avec Velázquez. C'est étrange, c'est l'anglo-irlandais qui vient se mesurer avec Velázquez. C'est étonnant quand même. Bon, alors, qu'est-ce qui se transmet dans la puissance créatrice d'un artiste chez d'autres artistes singuliers? Et à ce moment-là, on voit que le temps existe, bien entendu, c'est toujours dans une époque précise, mais que la question posée est pratiquement toujours la même. Donc, Bacon a fini par dire qu'il en avait marre de ses papes, etc. Ce sont des tableaux très célèbres. On voit le pape comme sur une chaise électrique, son fauteuil est transformé en chaise électrique, et il hurle, il crie, il y a de la viande aussi. Donc, on sent très bien que Bacon se pose la question, qu'est-ce que c'est que d'être un pape après la catastrophe du XXe siècle, ou une catastrophe peut-être beaucoup plus ancienne encore. Il n'a jamais voulu voir le tableau comme s'il avait peur du tableau. Ce sont des tableaux qui font peur. Bon, alors, je voulais montrer des papes en action, soit à travers le pinceau de Velázquez et celui étonnant de Bacon, qui a abandonné tout en trouvant quand même quelque chose comme une sorte de cataracte blanche d'un effet très, très, très bouleversant, mais il ne peut pas arriver à la couleur, il ne peut pas arriver au rouge, au sang même, à ce rouge de Velázquez, ou qu'on retrouve aussi chez Titien, chez d'autres peintres. Donc là, après, il me faut, pour parler des papes, évidemment, un événement considérable qui est l'attentat contre Jean-Paul II. Et je montre des images de ce pape renversé dans sa voiture et qui a failli mourir quand même à quelques millimètres près. Hein. Voilà. Donc c'était ça ma conférence, avec en plus une lecture d'un passage de l'Église gallicane de Joseph de Maistre. Bien, après ça, suivi de mes amis vidéastes, pour corser la dose, on est allé à la Villa Borghese. La Villa Borghese, on tombe d'éblouissement devant Bernin, qui est le grand, grand homme de Rome, avec Michel-Ange quand même. Et là, on a tourné autour des sculptures, c'est-à-dire l'enlèvement de Proserpine, ou Apollon et Daphné, et surtout la vérité révélée par le temps dont je démonte en parlant la signification, en partant surtout du nombril et en montrant comment Bernin a voulu dire quelque chose à propos d'un corps de femme qui est dans une position très particulière, et c'est la vérité révélée par le tout à coup. La vérité surgit, et elle n'est pas triste, contrairement à ce qu'on croit. Et donc voilà. Alors là, après, on a fait encore autre chose. On est allé place Saint-Pierre pour filmer, et je lis là des extraits de Paradis 2. Voilà, donc la Villa Borghese, Saint-Pierre de Rome, la Villa Médicis. Et là, je reviens dans les jardins, avec la lumière. Là, on tourne à 7h10, au moment où le soleil va venir. Et donc, à ce moment-là, on est sur les terrasses et on voit surgir Saint-Pierre, là, devant, avec sa coupole. Et c'est absolument prodigieux. Voilà. Donc, Rome, c'est ça. Et si on ne comprend pas, en montant vers Saint-Pierre, en quoi est faite et comment est faite cette place avec sa petite montée régulière, le Bélis, les fontaines, plus les colonnades qui sont comme un très, très étrange instrument de musique. Tout est musical, spatial et musical. Et immédiatement, on sait qu'on va avoir la seule musique qui convient. Alors là, on monte et on est constamment aspiré par le génial Bernard. On monte vers la gloire du Saint-Esprit au fond de Saint-Pierre de Rome. Alors, mais si vous entrez là et vous allez dans la chapelle dite du Saint-Sacrement, il santissimo, comme disent les Italiens, vous avez donc l'adoration perpétuelle, titre auquel Proust pensait pour son œuvre, hein, l'adoration perpétuelle. Et là, vous avez alors un sentiment de très, très, très violente, mais douce, parce que vous avez une hostie qui vous est présentée en permanence, et puis des religieuses qui sont là, de toute nationalité, qui se relaient. Elle prie de façon absolument pas vocale, hein, l'oraison mentale, mais... Et là, il est impossible de ne pas, ou à moins d'être totalement insensible. Il y a un silence particulier. Alors, la musique, le silence, l'architecture, la sculpture, la peinture, tous les sens sont convoqués. Et c'est pour ça que c'est la vraie religion. Il n'y en a pas d'autre. Elle n'est pas faite pour être religieuse, d'ailleurs, à mon avis, mais enfin, peu importe. Donc, on pénètre là dans ce que je crois qu'il faut s'habituer à appeler non pas la contre-réforme, parce que ça voudrait dire que c'était contre la réforme. Alors que oui, sans doute, sur le plan historique et politique, c'est ça. Mais ce qu'il faut appeler, il faut s'y habituer. Donc il faut appeler ça la révolution catholique. Et donc c'est l'architecture, c'est la musique, c'est la peinture à la fois. C'est-à-dire quoi? Une proposition faite au corps humain de vivre toutes ces dimensions à la fois. Ce qui, en général, n'est pas du tout proposé aux humanoïdes. C'est donc là qu'il se passe quelque chose de tout à fait saisissant. Vous prenez par exemple l'enlèvement de Proserpine de Bernard, et il faut voir dans le marbre l'extraordinaire délicatesse avec laquelle les doigts s'enfoncent à la cuisse gauche. Enfin, la petite déformation, on se demande comment quelqu'un a pu faire ça. C'est donc du très très grand art, et en même temps très intériorisé. Et le sujet est tout à fait profane. C'est-à-dire que la convocation des cinq sens implique que vous passez sans arrêt du profane au sacré. Ça, c'est alors, pour le coup, je reprends Titien, c'est l'amour profane, amour secret, sacré, secret, sacré. Donc, sans arrêt du profane au sacré, qui peut faire ça? Et personne.
C'est-à-dire que cette Rome catholique est inséparable de l'art, en fait, pour résumer. C'est qu'il n'y a pas de spiritualité sans art dans ce cas-là.
Et oui, c'est bien pour ça que c'est singulier. Tout ce qui, désormais, aura la forme d'une proposition dite spirituelle ou religieuse sans art, évidemment, c'est l'horreur. Bon, alors, moi, je veux bien devenir scientologue si on y tient, ou si le président de la République me l'ordonne, ou son chef de cabinet. Et donc, il y a là-dessus une telle confusion, un tel chaos, que une telle perte d'identité, plus personne ne sait de quoi on parle, mais ça se vérifie pour les choses les plus simples. comment voulez-vous écouter une messe si vous ne savez pas en gros ce qui s'y passe, bon, qu'est-ce que c'est qu'une élève. Je raconte toujours la même histoire, mais c'est vrai, j'ai proposé à Jérôme Clément un jour de faire une émission de 50 minutes où on filmerait simplement l'élévation. Le prêtre tend vers le ciel, simplement pour dire de quoi il s'agit, en filmant 500 messes partout dans le monde, c'est-à-dire dans des lieux extraordinairement luxueux ou alors dans la pauvreté la plus absolue. Il m'a regardé comme si j'étais fou. Ça serait pourtant sublime.